Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Les tontons.
J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Oh merde.
Les tontons.
La France est un des rares pays au monde à n'avoir jamais cédé à la tentation totalitaire.
Flingue.
L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard. Le sarcasme prudhommesque. Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants.
Oh, ça va atomiser. C'est l'émission des tontons flingueurs.
Ouais, le super ta gueule que vous reconnaissez désormais tous les jeudis matin, jeudi soir, samedi, peu importe quand vous écoutez cette émission devenue culte en Sud-Aveyron. Salut à toutes et à tous. Salut monsieur Margeron.
Bonjour, bonjour.
Ça va Gilles, la forme?
Oui, ah super, je pète la forme.
Ouais, ça se voit d'ailleurs, hein, t'as la patate. On remercie tout de suite derrière la vitre Chloé et Philippe qui nous font la technique. Ils sont deux, bientôt ils seront quatre. Vous imaginez l'ampleur, bientôt ils seront peut-être huit si les renseignements généraux viennent les appuyer.
Ah, c'est les mains de Shiva, il y en a partout qui courent sur la console de diffusion. Voilà. Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, hein. Sans eux nous ne serions rien. Je voulais faire juste un tout petit mot sur le tonton.
Vas-y, hein, vas-y, tontonne.
Parce que y a ce film culte, hein, dont nous avons chopé quelques phrases et qui vraiment, le film de Blier, tout ça, les tontons flingueurs avec plein de pointures, eh bien le seul qui reste vivant, c'est celui qui parle au tout début, l'humour Louis Philippard, c'est Claude Rich. Claude Rich a 82 ans quand même.
Ah ouais, hein. Ça passe. Hein.
Ah ouais, ça calme. Hein. 80 films, c'est un mec, 60 ans de carrière, etc.
Un monsieur.
Jouait dans les tontons flingueurs. Et c'est le dernier mec vivant, donc il fallait le signaler. Et son portrait était dans Libération hier, c'est pour ça que je sais tout.
C'est vrai que c'est un peu la rubrique nécrologique entre la disparition de Daniel Mitterrand, on y reviendra et le reste. Je vous rappelle...
T'en avais une bonne à propos de...
Ouais, plus tard.
Non, il n'osera pas la balancer.
Si, je la balancerai, mais plus tard. Plus tard. Je rappelle quand même, à toutes fins utiles, que vous êtes évidemment, comme je disais, de plus en plus nombreux à écouter cette émission, surtout en rediffusion, on comprend bien, pour des questions de facilité horaire. Cette émission est faite en direct, c'est-à-dire nous sommes en direct ce jeudi matin de 10h à 11h, donc vous pouvez nous téléphoner, hein, 05 65 49 29 94.
Participez,
ouais. Elle est rediffusée donc ce soir de 19h à 20h, le jeudi soir, et puis également le samedi de 16h à 17h. Alors, vous êtes nombreux également à nous avoir fait savoir que vous appréciez beaucoup cette petite phrase qui introduit généralement cette émission. Donc ne pas d'inquiétude, elle n'a pas disparu cette petite phrase, c'est pas qu'on veut pas la faire, c'est simplement qu'on a pensé qu'il était bien des fois de la renouveler avec d'autres petites phrases, que voilà, elle avait son importance.
Peut-être pas de la mettre au début non plus.
Pas de la mettre forcément au début, voilà. Enfin, vous savez, une émission c'est vivant, vous verrez d'ailleurs aujourd'hui que le format a été légèrement modifié, on essaye, puisque ça fait déjà plus d'un an et demi maintenant, donc
on n'aime pas la routine, on aime bien secouer tout ça.
Et puis on aime bien secouer, et puis il faut aussi que ça tourne un petit peu, que ce soit pas toujours plombant, donc on essaye de faire évoluer le format. D'ailleurs, votre avis est le bienvenu, évidemment. Alors, au sommaire aujourd'hui, puisqu'on a retourné un petit peu tout ça, en troisième partie, nous aurons le sujet qui fâche, c'est-à-dire qu'on traitera pendant une trentaine de minutes de sujets un peu plus sérieux.
Sujet long à la fin.
Voilà, le sujet long à la fin, comme ça vous n'êtes pas obligé de subir, pour ceux d'entre vous qui ont plutôt envie d'entendre des conneries ou de la gaudriole pendant la première partie d'émission. D'ici un petit quart d'heure, on traitera d'actu local, donc on aura une deuxième rubrique qui sera une rubrique d'actu local en milieu d'émission, puisque c'est important quand même de parler de ce qui se passe chez nous. Mais on commencera tout de suite avec ce qu'on peut appeler, d'une façon générale, l'actu fun.
Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.
Voilà, ventilons un petit peu. Alors, pour la première, Gilles, on va attaquer en force monsieur Wauquiez, tu vois qui c'est, le ministre,
le sinistre. Wauquiez. Ouais.
Rappelle aux auditeurs qui seraient pas...
Il est, je sais plus s'il est secrétaire d'État ou vrai ministre.
Ah, il est sinistre, hein.
Il est vrai ministre, là, maintenant, parce qu'il a été à un moment donné, donc j'ai pas suivi tous les remaniements, mais il a tenu à tous les remaniements ministériels. Il est toujours là, il porte plutôt beau, hein, il est pas mal.
Une bonne gueule, a priori.
Oui. Je sais plus qui le comparait à un acteur américain, tu sais, Watts Health.
Oh là, attention les comparaisons.
Ouais. Mais enfin, c'est celui du pauvre quand même.
Alors, qu'a dit monsieur Wauquiez ? Parce que quand même, ça me vaut son pesant de cacahuètes.
Il n'arrête pas d'en dire des belles. Vas-y, sur celle-là, mais je me souviens du cancer, moi.
Voilà, alors là, c'est la phrase qui tue. Monsieur Wauquiez a dit « Être payé quand on est malade n'est pas très responsabilisant ». Voilà, c'est je fabuleux. Laisse un blanc pour qu'on ait le temps, je la relis même. Être payé quand on est malade n'est pas très responsabilisant.
Petit con, le jour où il aura une sclérose en plaques ou un cancer, on en reparlera, quoi.
Alors, il y a une réaction, bien sûr. Je vous conseille plein pot un site absolument délirant qui s'appelle désinformation.com, qui est un web journal, on va dire, satirique.
Au pluriel, désinformation
voilà,
au pluriel.
Voilà, désinformation au pluriel, dont toutes les informations sont fausses. Alors, ils se sont emparés de ce texte de Wauquiez, et voilà ce que ça donne. J'ai pas résisté, je ne peux pas résister au plaisir de vous lire ce petit...
Éjaculateur précoce.
Oh, énorme. Le vote imminent de la loi Wauquiez sur l'interdiction des maladies inquiète l'industrie pharmaceutique. Branle-bas de combat aujourd'hui au sein des plus grandes firmes pharmaceutiques alors que filtrent les rumeurs bien désinformées depuis le cabinet de Laurent Wauquiez, qui est donc ministre de l'enseignement de moins en moins supérieur et de l'abandon de la recherche. On sait en effet, de sources discordantes, que le ministre, soucieux de porter sa pierre à l'édifice du plan de rigueur mensuel du gouvernement, prévoirait de déposer dans la semaine un texte de loi réprimant sévèrement la maladie. Ainsi, le fait d'être malade pourrait en coûter de 6 à 12 mois de prison, et jusqu'à 25 000 euros d'amende pour les salariés, jusqu'à 2 mois de privation de questions pour un champion pour les retraités, et 500 lignes pour les écoliers. En cas de récidive, les contrevenants se verraient privés définitivement du droit à la maladie. Des mesures, évidemment, alors vous imaginez bien, saluées par la droite populaire qui rappelle avec Laurent Wauquiez qu'il est essentiel de responsabiliser les malades. Il y a eu assez de campagnes de prévention. Nous devons maintenant envisager la répression afin de rassurer les marchés et de lutter contre l'addiction à la maladie.
Les malades sont des mauvais Français. Hein.
Ouais, vraiment. Hein. Il semble toutefois que ce nouveau texte inquiète au plus haut point l'industrie pharmaceutique qui craint, outre un effondrement de son chiffre d'affaires, d'être accusé en proposant des médicaments à la vente d'incitation à la maladie. Ah. Si Xavier Bertrand, ministre du Travail, c'est la santé, se veut rassurant, en rappelant les liens étroits noués depuis plusieurs années entre les grandes firmes pharmaceutiques et le gouvernement, par le biais notamment de l'achat de millions de doses de Tamiflu, les tensions demeurent importantes. D'autant plus que l'opposition socialo-bolchévique irresponsable tente de profiter de la brèche créée par ce conflit larvé entre industriels et gouvernement pour foncer à bride de pédalos abattus et dénoncer la stigmatisation des malades. Des menaces qui n'impressionnent guère Nadine Morano, chroniqueuse au Grand Journal, qui déclare « Vous voyez, en défendant la maladie, la gauche veut que les Français meurent ». C'est pas mal quand même.
Ah
ça.
Non, mais hein? C'est énorme. Mais en même temps, on n'est pas si loin que ça de la vérité.
Bien sûr.
Il avait dit quelque temps avant, ça avait choqué pas mal de gens, et notamment les gens atteints d'un cancer. Il avait dit que c'était toute fraude, les petites fraudes là, qui sont stigmatisées par le président en ce moment, étaient le cancer de la société française.
Ouais, parce que eux, ils fraudent pas du tout.
Et... Ah non, jamais. Non, c'est-à-dire qu'ils fraudent sur d'autres niveaux, hein, à une autre échelle. Il faut des mallettes avec des centaines de millions dedans, sinon ça vaut pas le coup.
Comment tu es poujadiste ?
Ah ben oui, je suis.
Bon, qu'est-ce que t'as comme actu famille ? Qu'est-ce que t'as comme grosse connerie qui traîne dans la presse aujourd'hui ?
Des rafales de rire, les fameux rafales.
D'assaut.
Eh oui, les rafales beaucoup, d'assaut. Ouais. Parce que la famille d'assaut s'était penchée à la télévision, toute génération confondue.
Chez Mireille Dumas.
Mais parce que, oui, il y a le plus vieux qui sent qu'il va pas tarder à casser sa pipe, essaye quand même de faire la jointure avec le successeur, quoi.
Oui.
Et il y a 4 enfants,
oui.
Mais il y en a 3 qu'il n'aime pas trop et il y en a un qu'il aime bien, quoi. Donc il aimerait bien favoriser celui qu'il aime bien, ce qui est assez logique. Sauf que, alors, il y a 2 choses. C'est que le barbu d'assaut, le jeune, qui a quand même 60 ans...
Hein. C'est le golden boy, lui, tu vois, il a les dents dehors.
Voilà, mais le gars, il a fait l'école de l'air et tout, c'est le seul qui connaît un petit peu en avion et tout ça. Et il a déclaré, alors je ne sais pas si je vais retrouver ça. Si,
je te laisse le temps de le chercher.
Je l'ai. Un grand patron l'assure dans le journal Marianne du 19 novembre. On est de plus en plus nombreux, c'est un grand patron qui parle, hein, on est de plus en plus nombreux à envisager de voter pour lui. Hein, il s'agit de François Hollande, figurez-vous, pas de Sarkozy.
C'est pas bon signe. Hein.
L'hypothèse de Hollande au pouvoir ne fait même pas peur à Serge Dassault. Est-ce vraiment rassurant ?
Ouais, voilà, c'est pas rassurant du tout. Moi, ce que j'aime chez les Dassault, Gilles, j'ai vu l'émission de Mireille Dumas dont tu parlais. J'ai voulu, par curiosité, bon, elle, on sait bien, hein, c'est un peu la Michèle Drucker au féminin.
La classe au-dessus, je trouve.
La classe au-dessus, mais enfin, elle suce autant, hein, je suis désolé, mais pour être poli.
Je vous en prie.
Alors, moi, ce que j'aime chez les Dassault, toute famille confondue, c'est la lueur d'humanité et d'intelligence qui brille dans leur regard. Je trouve que c'est des gens, je sais pas, tu les vois tout de suite, ça respire l'intelligence, hein, surtout le père d'Assaut, tu sens le mec brillant. Autant le grand-père.
Ah, le grand-père était extrêmement brillant.
Était quelqu'un d'extrêmement brillant. On pourra discuter sur la manière dont il a, soi-disant, redémarré à zéro, avec les contrats de l'État quand même.
Absolument. Hein. Mais ça fonctionne toujours, c'est à ça que je voulais en venir. Il faut quand même le dire, le répéter. Il y a un article dans le Canard Enchaîné qui remet une couche intitulée « Des rafales de rire ». Il faut savoir que le seul client de Dassault pour les rafales, ce fameux avion de chasse si prestigieux dont personne ne veut, c'est l'armée française. Et l'armée française, qui c'est qui paye? C'est nous.
C'est avec le sou.
C'est-à-dire que, encore une fois, je suis très poujadiste, un seul rafale coûte la coquette somme de 142 millions d'euros. Il faut quand même le savoir. Donc personne n'en veut parce que c'est trop cher et il y a des concurrents et on devait en vendre à l'Arabie Saoudite, tout ça. Ils se sont tous décommandés, hein, parce que il paraît que c'est des contrats irréalisables, trop chers.
Trop cher, ouais, ouais.
Et apparemment, les VRP de chez Dassault étaient assez arrogants et méprisants et ça n'a pas plu du tout au cheikh arabe, les Émirats arabes. C'est le prince héritier des Émirats arabes qui s'est fendu d'un petit communiqué cinglant, c'est ce qui est du jamais vu dans ce genre de négociation. Il explique que les conditions commerciales de Dassault sont irréalisables.
Pourtant, ils ont un bon VRP avec Sarkozy, parce que chaque fois, il essaye de placer...
Comme quoi, non, mais c'est pour ça, ça ne suffit pas. Et donc, ils ont échoué un petit peu partout. Ils voulaient en vendre à la Hollande, à la Corée du Sud, à Singapour, au Maroc et au Brésil. C'est le flop partout. Et il faut savoir que la maison Dassault ne tient que grâce au financement
Absolument.
De l'État français.
C'est l'indépendance, soi-disant.
La jolie facture se monte, tenez-vous bien, vous êtes assis, couché, 40 milliards d'euros.
Non, mais c'est ça.
Hein,
c'est
voilà.
Ça. Bon, c'est un avion qui avait quand même, précisons-le, avec son système de décollage vertical, ainsi de suite, pas mal d'années d'avance, mais comme systématiquement, c'est un bel exemple du fonctionnement de l'industrie française, ça. C'est-à-dire que ce soit sur le Minitel, que ce soit sur l'aviation, que ce soit sur le téléphone... Les Français sont extrêmement brillants pour inventer des concepts. Au moment de la commercialisation, c'est une catastrophe nucléaire, c'est le cas de le dire. On est incapable de commercialiser, on ne sait pas faire. Et ou plus exactement, on sort des concepts qui sont très beaux dans la théorie, mais qui sont beaucoup trop chers.
Oui. C'est notre super navion là, qu'on n'a jamais pu fourguer et qui était le fleuron, machin, le Concorde. Hein, c'est pareil,
c'est du même niveau.
Mais alors donc, il faut quand même le reconnaître. Essayons de ne pas être trop manichéens. Le seul truc qu'ils arrivent à vendre quand même, c'est les Falcons. Ces petits avions privés pour...
Du nom de Monsieur Falcon qui a...
Alors, par Dassault et ça se vend comme des petits pains.
Falcon, dont on retrouve souvent le nom d'ailleurs dans des affaires un petit
Absolument.
Peu limites, un petit
non,
peu
mais voilà, je te tendais la perche. Ah.
Merci pour cette perche, Gilles. Alors, actu suivante. Alors, celle-là, je l'adore. J'ai vu ce matin, d'ailleurs, ce jeudi matin, donc je précise, mais ce sera toujours valable samedi et même encore plus, le nouveau radar est en train d'être mis en place à l'entrée de Saint-Afrique. Donc, automobiliste qui arrivait de Millau vers Saint-Af, les techniciens ce matin s'affairaient, la borne est restée pendant des mois et des mois avec un tuyau qui sortait. Ça y est, le radar a été posé, ne faites aucun lien avec ce qui va suivre. Je ne suis pas en train de vous lancer un appel, ce n'est pas du tout le genre de l'émission.
Levez le pied.
Alors, info trouvée dans Rue 89, que j'ai trouvé extraordinaire. Vous allez voir pourquoi, pas tellement dans l'info, mais surtout sur le traitement. Un radar détruit sur l'A31 par une bombe artisanale. Alors là, on n'est plus au tagage. Hein.
Ah non, mais là, c'est de l'incitation.
Non, c'est ce que j'ai dit. Ne faites pas lien. C'est pas le genre de l'émission du tout. Parce que ce que j'ai adoré là-dedans, moi, c'est les réactions des internautes. J'ai trouvé ça sublime. Un radar détruit sur la 31 par une bombe artisanale. Et il y a un mec qui dit « La question qui nous turlupine, c'est est-ce que le radar va recevoir la Légion d'honneur ? C'est quand même une force de l'ordre morte au service de la France. Juppé sait que c'est les stocks d'armes piqués à Kadhafi qui ont servi à ce lâche attentat. » Le radar n'a rien vu venir, il a été sauvagement molesté pendant une brève période d'inattention qui lui a été fatale. Organisons donc un radarton et collectons des fonds afin de préserver cette espèce qui vit dehors par tous les temps, comme nos pauvres SDF ou indignés. J'ai trouvé ça très joli.
Oh, c'est mignon.
C'est très poétique.
C'est poétique, hein, oui, c'est le mot qui vient à la bouche.
Monsieur Gilles, la suivante.
Le Vatican vaincra.
Ah non, on parle plus. On a dit qu'on parlait pas de. Non, on parle pas de momie ici.
Mais écoute, l'Italie est sous la tutelle un peu du Vatican. Hein. Les ministres catho-italiens sont entrés en force au gouvernement italien sous la la houlette du très pratiquant nouveau président du conseil, le fameux Super Mario Monti. Il a été formé chez les jésuites,
monsieur.
Et alors, c'est vraiment une très belle équipe, quoi. Hein. Ils sont tous, ils vont tous à la messe, ils sont tous sérieux. Eux, pas de bunga bunga, il n'y a pas de partouze, c'est vraiment...
S'y met dans la sacristie.
Il y en a même... Il y a même... Il y a même... Ah ben, ça, on ne parle pas des fois de... des petits dérapages avec les enfants de cœur. Mais ça, c'est autre chose.
Jamais.
D'ailleurs, il y a un article dans le Libé d'hier sur le moine attoucheur qui va repasser en procès,
du
qui
Nord
était à Bonnecombe, ouais, qui
le,
était à l'abbaye de Bonnecombe.
Ah ouais.
Et donc, il y a encore des histoires qui ressortent, mais ça, c'est... Ne mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas tout. En tout cas, le Vatican est très, très content de ce qui se passe en Italie en ce moment, et apparemment, ça devrait assouplir les finances, tout ça, ça devrait très, très bien se passer, et le Vatican vaincra, rassurez-vous.
C'est sûr que le Vatican, on rappellera pour les plus anciens d'entre nous, le fameux scandale de la banque Ambrogio Diano, ainsi de suite, c'est-à-dire que ces pères la morale font partie quand même des plus putassiers, des plus arnaqueurs des États. C'est probablement d'ailleurs l'État le plus riche au monde. Et chaque fois qu'il y a eu une magouille, et d'ailleurs l'affaire Clearstream dont on parle a commencé, en réalité les histoires de banques de compensation ont commencé il y a déjà 20 ou 30 ans en arrière avec le scandale de la banque Ambrogio Diano.
Bien sûr,
et le Vatican était ferré, mouillé jusqu'à la lie.
Ils avaient à l'époque investi dans des fermes au Brésil où on pratiquait l'esclavage encore à l'époque, ça rapportait des sous. Le canard enchaîné de mercredi rappelle joliment l'étymologie de catholique. Ça veut dire universel, et tous les chemins semblent mener à Saint-Pierre de Rome.
C'est joli. Bien, écoutez, il est toujours que 10h16. Vous pouvez donc toujours nous contacter puisque vous êtes sur les tontons en direct ce jeudi matin au 05 65 49 29 94. On va y arriver tout de suite. On attaque l'actu locale. L'actu locale, alors c'est un petit peu plus sérieux. On attaque le 10e jour de grève à De Cazeville, à Millau et dans différents postes de l'Aveyron. Alors de quoi s'agit-il?
C'est soutien, hein, De Caz Saint-Afrique, c'est soutien à Millau, parce que le gros problème, il est à Millau et à Saint-Rome-de-Cernon. Hein.
De quoi s'agit-il, grosso modo? Bon, il y a eu hier un syndicat, le CGT-FAPT, qui a appelé à un rassemblement à Firmy, dans
il
le bassin.
Pété.
C'est bravo. Pour le sud Aveyron, donc, cette grève intervient après l'annonce de la suppression de 10 postes occupés par des facteurs et des manutentionnaires, dont 9 sont sur Millau et un autre à Saint-Rome-de-Cernon, comme tu le disais, Gilles, il y a 2 secondes. Les grévistes revendiquent contre ces suppressions et en parallèle une charge de travail trop conséquente. L'occasion pour eux, bien sûr, de soulever des problèmes de distribution dans les campagnes, où le rôle avant tout social du facteur est dur à préserver, étant donné les suppressions de postes, l'allongement des tournées et une cadence de travail toujours plus grande. Alors vous pouvez noter effectivement que dans le bassin de Cazeville, un collectif d'usagers vient d'être créé pour la défense du service public postal. Alors pourquoi on traite de ça? Bon, d'abord parce qu'effectivement au niveau local, c'est quelque chose d'important. On se souvient que ce conflit a démarré, il y a eu des prémices à Saint-Afrique il y a quelques semaines en arrière. D'ailleurs, après plusieurs jours de manifestation, ils avaient eu gain de cause, ils avaient eu un arrangement avec la direction.
Oui, pas vraiment gain de cause, un petit arrangement.
Un petit arrangement. Aujourd'hui, on a difficilement plus d'infos, à part sur Radio Totem ce matin où il précisait qu'il n'avait pas plus d'infos. Grosso modo, on est au point mort.
C'est pas vrai, t'écoutes Totem?
Non, je reçois les brefs de Totem parce que sur l'actu locale, en tout cas, ils ont des dépêches beaucoup plus à jour que la dépêche et Midi Libre, malheureusement.
Ah bah, c'est le seul média local renseigné, c'est ce que tu veux dire.
Ouais. Donc on fait un petit coucou à notre consoeur, même si c'est pas forcément notre tasse de thé.
À part nous, bien entendu.
À part nous, bien évidemment. Ce qui nous a un petit peu aussi encouragé à parler de ce sujet, c'est la réaction des usagers.
Moi,
je suis effrayé sur le site du Midi Libre et de la Dépêche, puisqu'on consultait les deux lors de la préparation de l'émission hier.
Tu parlais de Poujadiste.
Alors là, moi, je peux vous dire, j'ai vu les réactions des gens par rapport à cette grève, ça fait flipper. Ça fait flipper, c'était du genre « Ouais, ils nous emmerdent avec leur grève, le courrier n'arrive plus, ils vont couler les entreprises, ils vont couler l'économie locale. »
C'est exactement ce que j'ai entendu dans le bus de la part du chauffeur qui s'exprimait avec une passagère d'ailleurs. Normalement, on a interdiction de parler au chauffeur pour des raisons de sécurité. Il n'a pas arrêté de causer pendant tout le voyage de ça, justement, avec un discours quasiment le pénis.
C'est hallucinant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus le droit, c'est dans ce pays, on ne peut plus, mais les gens, moi je pète les des plombs là. Les services publics, les gens n'en ont plus rien à foutre. C'est ça qu'on est en train de définir. C'est-à-dire que le petit intérêt individualiste aujourd'hui, c'est dès que ça gêne un petit peu, dès qu'une action vient bouleverser un petit peu son quotidien.
Alors, essayons de ne pas être trop manichéen.
C'est le but.
C'est vrai que quand on a une PME dans le sud d'Aveyron, ça fait chier parce que le courrier n'arrive pas et surtout les chèques n'arrivent pas. Et j'ai moi
les factures non plus. Hein.
J'ai entendu oui les factures non plus, mais j'ai un copain qui est artisan et qui est dans le rouge du fait de cette grève et qui est emmerdé et qui va payer des agios, etc.
Ça fout, c'est vrai que ça fout la merde.
Ça fout la merde. Alors moi ce qui m'a choqué encore plus, parce qu'on a des amis qui ont été les soutenir à la manif samedi dernier, et en revenant de manif je les ai un petit peu interrogés et ils m'ont dit ce qui est de plus choquant, c'est que la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, se substitue à la Poste, ouais. Brise la grève, récupère le courrier.
Avec du privé, d'ailleurs.
Je ne pensais pas que c'était possible.
Avec une boîte privée pour la distribution.
Et incite toutes les petites boîtes à venir chercher leur courrier à la CCI ou distribué par une boîte privée. Alors, je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça en France.
Mais ça c'est de plus en plus courant.
C'est
ce que l'État appelle le service minimum, il se camoufle derrière ce terme.
C'est ce qu'on appelait à une époque où les gens luttaient pour des acquis sociaux, pour des conquêtes sociales, on appelait ça des jaunes. C'est ceux qui brisaient la grève, les jaunes. Alors, et c'était mal vu quand même, les jaunes.
Ça mérite quand même un petit débat, ça. On a un petit peu de temps devant nous. Moi, je suis en train, on est à quelques mois d'une élection présidentielle. La question se pose aujourd'hui de savoir quelle alternative il y a au tout marché, au tout libéralisme. Et on est, pour les gens plutôt marqués à gauche, certains à penser que l'homme doit revenir au centre du débat, qu'on n'arrivera pas à faire tenir une société avec une organisation entièrement tournée vers les marchés. Mais est-ce qu'on n'est pas en train, les humanistes, entre guillemets, de se planter complètement, parce que finalement, la vraie fracture sociale, celle qui a consisté pendant des années pour Sarkozy à opposer les Français les uns contre les autres, c'est quelque chose qui fonctionne.
Ça marche.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai plus peur qu'en cas de bordel, c'est-à-dire que les jours où les gens vont vouloir se révolter, c'est pas une révolution qu'il va y avoir, c'est qu'au stade où on en est dans les mentalités, c'est une guerre civile.
Absolument.
C'est une guerre civile. Alors, cette réussite...
Et j'ai peur parce que c'est pas nous qui avons les fusils quand même.
Bon, d'abord, c'est pas nous qui avons les fusils, mais on est arrivé à un stade, moi je vous jure les réactions là, j'étais blanc hier, c'est-à-dire la solidarité terminée, dès qu'on touche au petit intérêt individuel.
Mais c'est-à-dire qu'ils voudraient tout les gens, le peuple voudrait tout. Ils voudraient qu'il y ait des services publics qui fonctionnent bien. Mais ils ne voudraient pas qu'ils fassent grève, quoi.
Voilà.
Et ils ne voudraient pas que... seulement, il faudrait peut-être qu'ils s'adressent en haut. C'est ce que certains disaient, c'est que ce n'est pas les postiers qu'il faut prendre entre quatre yeux, c'est là-haut, il faut monter à l'Élysée, quoi. Je veux dire, c'est quand même ce mandat-là qui a cassé tous les services publics, que ce soit la justice qui a fermé les tribunaux, qui ont diminué, même les flics, les gendarmes, qui ont diminué partout, des enseignants, bien entendu, tout ce qui était service public a été, c'est la peau de chagrin, ça a été diminué, ça a été le dégraissage généralisé, mais on voudrait que ça marche quand même.
Ça peut pas, c'est pas possible. Il y a un moment où le niveau, je suis désolé, mais le niveau de connerie ambiant, va falloir que ça s'arrête. C'est-à-dire quand il y aura plus de profs pour élever nos gosses, que ce qu'on va dire, l'école elle fait pas son travail. Les postiers, rappelons quand même que tout le monde est bien content quand ils amènent les médicaments à nos parents qui sont dans les fermes ou à nos grands-parents, qu'ils amènent les médicaments, qu'ils fassent un travail qui est bien au-delà de leur mission parce que c'était dans le lien social
fini,
à la campagne.
Monsieur, c'est fini.
Moi, je connais encore des campagnes où ça se fait, où le postier joue son rôle
de lien, c'est en passe d'être, de faire partie du passé. Quoi.
Petite réflexion, quand les gens manifestent, vont faire la grève, ça va pas. Quand les gens vont casser, ça va pas. Je voudrais quand même rappeler, moi, que la grève, il semblerait que ce soit quand même une belle représentation du combat non violent. Rappelons aux gens que la grève, c'est le premier truc qu'on fait.
Il y a des gens qui sont morts pour avoir le droit de grève.
Pour avoir le droit de grève, mais c'est une représentation. Tout le monde dit oui, mais il ne faut pas casser, il ne faut pas. Ben justement, si on ne casse pas, on fait grève. Alors si on ne fait pas grève, on fait quoi? Gilles, est-ce qu'il y a d'autres moyens de se faire entendre?
Je ne sais pas. Il y a les pétitions, mais enfin, ce n'est pas très efficace. Une grève qui ne gêne pas les usagers ne sert pas à grand-chose. Ils peuvent rester 6 mois en grève. S'il n'y a pas de gêne, tout le monde s'en fout. C'est ça le gros problème. La grève, elle est obligée. Ça me rappelle les prises d'otages régulières sur le métro, dans les trains, etc., où les usagers sont là à râler. Ouais, je suis suis en retard, ça va me faire rater une journée de boulot. Nous sommes pris en otage, quoi. Ce qui est un scandale par rapport aux prises d'otages réelles, les vraies prises d'otages, où les gens risquent leur peau. C'est évident. Et c'est pour ça que Sarko a essayé, et il y est arrivé, d'imposer un service minimum. Hein. Et il a même déclaré à un moment donné, juste avant une grande grève qui a emmerdé tout le monde, et un grand mouvement, il a déclaré, bah, maintenant, quand on fait grève en France, plus personne s'en aperçoit. Hein. Il avait fait une déclaration.
Il ne l'a pas fait par hasard. Hein.
Voilà. Et donc, peu de temps après, la France était un peu bloquée, si je me souviens bien.
Est-ce que c'est la fin des... Selon toi, est-ce que c'est la fin des combats collectifs, d'une manière générale ?
Un petit peu. Les syndicats se plaignent, en tout cas, que c'est la peau de chagrin. Il y a de moins en moins d'adhérents dans les syndicats. Il y a de moins en moins... sauf quand il y a un sursaut. On l'a vu au moment du conflit sur les retraites. Là, on a vu que, quand même, les gens étaient encore très motivés. Mais on s'use. À chaque fois, sur ces mouvements-là, eh bien, on perd du fric, on perd du temps, soi-disant. Mais moi, je dis, dans les manifs, on fait des rencontres et tout. Ça peut être très positif et productif, au contraire. Mais c'est pas dans l'air du temps. C'est pas dans l'air du temps. Il n'y a qu'à voir le peu de réactions par rapport aux indignés, etc. Quoi. On voit bien que l'individualisme a gagné quelque part.
C'est ça, on a la sens. Enfin, au moins pour un moment. Quoi.
On parlait de l'eupénisation des esprits, mais là, il y a la sarkoïsation des esprits. Quoi.
Parce que ce qu'il faut bien comprendre quand même derrière tout ça, c'est que si un jour ça pète les fusibles, on assiste à des gens qui pètent les plombs. Alors, dans le meilleur des cas de figure, ils pètent les plombs, ils se retrouvent blindés au cacheton et ainsi de suite. Dans les pires cas de figure, ils se suicident. Mais ce qu'on risque pas, si c'est la fin des luttes collectives, d'assister à quelque chose finalement qui est beaucoup plus gênant pour l'État ou pour l'ordre public, si on peut se mettre du côté de l'ordre public 5 secondes, qui est la révolte par des groupuscules, c'est-à-dire des gens très peu nombreux, des petits groupes, 2, 3, 4 personnes qui iront faire créer, comme on a vu tout à l'heure, un radar qui pète, une bombe artisanale à droite. C'est ça le risque finalement.
Complètement. C'est la hantise de tous les services spéciaux qui sont censés nous protéger. C'est les loups solitaires, comme ils les appellent.
C'est ça.
Hein, ce sont des samouraïs, des gens qui décident qu'en ont plein le cul, qu'en ont ras le bol, qui se disent de toute façon, ça ne sert plus à rien de signer des pétitions, ça ne sert plus à rien d'aller dans les manifs. La seule solution, c'est la bombe. Quoi. Et ça, c'est grave. C'est très, très grave parce que c'est les desesperados, hein, gens qui sont désespérés. Et là, rien ne les arrête et ça devient extrêmement dangereux. Je ne sais pas si les gens qui nous gouvernent à l'heure actuelle mesurent bien l'impact.
Je pense que le paramètre humain aujourd'hui, c'est peut-être un de leurs... heureusement, l'espèce de machine de guerre là, qui est en train de se mettre en place à une limite, c'est qu'à mon avis, justement, elle ne prend pas parfaitement en compte le paramètre humain. Et d'ailleurs, il y a des erreurs qui sont commises qui sont très importantes, entre autres le fait de stigmatiser toujours, entre guillemets, les pauvres. C'est-à-dire, les fraudeurs, les gens qui arnaqueraient à la sécurité sociale. On oublie quelque
entre
chose.
Entre parenthèses, c'est les arnaques à la sécu, enfin aux prestations sociales, c'est 400 millions, c'est toujours trop. Hein.
C'est toujours trop.
Sauf que les arnaques des grosses entreprises par rapport aux cotisations, c'est 15 milliards. Quoi. Donc on ne parle pas vraiment sur le même niveau.
Non, mais il y a encore une fois l'objectif de montrer du doigt. Là où ils font une connerie, à mon avis, énorme, c'est que, effectivement, on trouvera toujours moyen de dire, parce que ce discours, combien de fois on l'entend dans les bars, ouais, mais ils n'ont qu'à aller travailler. Bon, déjà, pour aller bosser, je ne veux pas être dur. Au-delà des vrais feignants, il faut déjà avoir du boulot et il faut qu'il n'y ait pas de chômage.
C'est le premier paramètre.
Ils oublient quelque chose, ces gens-là. C'est les 10 millions de travailleurs pauvres. C'est des gens qui travaillent à 800, 900 000 euros par mois.
Dans leur bagnole.
Dans leur bagnole dans les grandes villes et eux ils bossent. On peut pas dire c'est des feignants. Et moi je suis désolé, mais avec 800 euros par mois, si tu peux aller gratter 15 ou 20 euros à droite à gauche, tu vas pas te gêner.
Mais il y a des gens qui ont 2 boulots, 3 boulots.
Mais bien sûr, et qui vont faire du black à côté. Alors là où ils se trompent encore plus, deuxième niveau d'analyse, c'est qu'au-delà de ces travailleurs pauvres, vous avez tout un tas de petits chefs de PME, et ici, moi je peux vous dire, on en parle beaucoup entre nous, des petits chefs de TPE, de toutes petites entreprises, souvent des gens tout seuls, voire 2, voire 3 salariés. En ce moment, on est dans une période, entre guillemets, de pétage de câble, personne le sent arriver. Moi, je croise tous les jours des chefs d'entreprise, des petites entreprises qui me disent « L'entreprise marche, mais on en a plein le cul. On s'en sort plus, on est acculé, on est oppressé. » C'est pas une histoire de poujadisme de dire encore « Ouais, il y a des charges qui tombent. » Bien sûr, il y a des charges qui tombent. Mais ça devient quelque chose d'hallucinant, c'est-à-dire que le moral... parce que c'est beaucoup plus important que l'aspect vraiment financier. Le moral des gens, les gens n'y croient plus. Et on vient d'apprendre hier que l'indice d'investissement ou d'envie des chefs d'entreprise en France, elle n'avait jamais été aussi bas. Les gens ont le moral à zéro. À force d'être stigmatisés, les petits, ça ne va pas être seulement les chômeurs. Et le jour où les petits seront plus nombreux que ceux qui profitent, là, ce jour-là, ils ont du souci à se faire. Et je pense que leur seul problème, c'est de mesurer le seuil de tolérance.
Bah, je crois qu'on y est déjà. Hein.
Non, enfin, ils mesurent le seuil de tolérance avec les sondages, je crois, Gilles, moi. Ils envoient des sondages pour vérifier, puis après, ils se rendent compte que ça bronche pas trop. Non, tu penses pas ça, toi ?
Ben, en tout cas, ça va sûrement perturber la campagne électorale, et ça, peut-être le résultat va se faire dans les urnes, je sais pas, par l'abstention, par des votes protestataires, ça profite à qui, hein, sinon ouais. Au Front National, ce genre de choses.
C'est une très belle transition qui nous amènera, donc, après la musique, sur la dernière partie de cette émission, qui n'est pas la plus légère, puisqu'on essaiera de comprendre où en est la gauche à l'heure de la tourmente économique. C'est un sujet extrêmement vaste et intéressant. Mais je ne résiste pas avant tout ça pour terminer sur une petite note d'humour. Sur un sujet grave, peut-on rire de tout ? Eh bien écoutez, vous jugerez.
Ça dépend avec qui.
Voilà, je reprends le journal des informations.com qui a fait un titre un peu trash, mais franchement ça vaut son pesant de cacahuètes. Deux suicides à la Société Générale, Moody's favorable à la responsabilité salariale. Deux salariés de la Société Générale se sont suicidés au mois d'août sur leur lieu de travail. L'agence de notation Moody's a immédiatement salué dans un communiqué de presse l'acte de responsabilité des deux salariés dans leur recherche d'une solution volontariste à l'allègement des coûts salariaux de la banque pour contribuer à maintenir la distribution de dividendes à un niveau décent et ouvrir la voie à une généralisation de cette expérimentation réussie. C'est en effet de sources bien désinformées sur la base du volontariat que les deux salariés ont tenu à produire un effort, certes symbolique, pour aider leur banque à traverser au mieux les tourmentes financières. Si le premier des deux salariés a mis fin à ses jours par défenestration, le second a préféré la pendaison plus discrète, précise Jean Dubonchois, son attaché de presse. Ainsi, la direction de la banque regrette le caractère légèrement ostentatoire du premier suicide, qui ne doit pas en attendre pour autant une promotion hiérarchique plus rapide que son collègue. Nous n'aimons pas les petits vantards, et sa méthode entretient un écho non souhaitable avec le jeu des banlieusards désœuvrés, indigne de l'image de respectabilité de la banque. Des stages de formation à l'autorégulation salariale seront bientôt mis sur pied et s'adresseront prioritairement aux salariés les moins qualifiés de l'institution bancaire. Preuve que nous savons consacrer les moyens qu'il faut à la formation continue des moins diplômés, contrairement aux contre-vérités colportées par les syndicalistes gauchistes et irresponsables.
Destroy, capitalisme, anarchie, c'est le numéro 1 de Burning Heads.
Le concert
de demain, hein, 8 euros, c'est vraiment donné. L'association Artevox organise ce concert à Saint-Afrique, au Caveau.
Your words are
deuxième édition du Rock'n'Roll Baby organisée par l'association Artevox. Ça se déroulera demain soir au caveau. Alors demain soir, c'est vendredi 25 parce qu'avec les rediffusions, ça ne va pas marcher. Vendredi 25 au caveau de Saint-Afrique. Quatre groupes, 10 hippies de Toulouse, des B-sides, un groupe qu'on va découvrir au dernier moment et les fameux Burning Heads que vous venez d'écouter.
Voilà, vous êtes toujours sur Radio Saint-Afrique et sur les Tontons Flingueurs. Donc en fonction de vos choix, puisque vous faites ce que vous voulez, il est 10h34 ce jeudi matin, il est 19h34 ou 16h34 si vous écoutez cette émission lors des rediffusions du jeudi soir et du samedi. Je vous rappelle également,
c'est bien compliqué,
je vous rappelle également que si ces trois diffusions ne vous suffisent pas, vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiosaintafrique.com et même nous laisser des petits messages. Toujours est-il que pour ce jeudi matin, il est 10h34 et que vous pouvez toujours nous téléphoner au 05 65 49 29 94.
Un petit email, ça nous ferait plaisir.
Ouais.
Bertrand nous avait écrit la semaine dernière et ça avait été du vrai plaisir.
C'est vachement sympa, ouais. Vous pouvez absolument nous téléphoner. Un gros coucou d'ailleurs, j'en profite à tous les potes de Saint-Paul et de Saint-Jean-d'Alcas qui nous écoutent sur cette antenne. Dernière partie de cette émission, c'est pas la moins importante parce que c'est un débat et on a 25 minutes pour l'aborder. Où on est la gauche à l'heure de la tourmente économique, grande discussion. Alors évidemment, une petite introduction à cette thématique. Je tombais la semaine dernière sur un traitement que j'aurais bien voulu développer, mais on n'en a pas eu le temps. C'est un analyste, alors j'ai pas retenu son nom parce que ça n'a vraiment aucun intérêt, qui nous expliquait aujourd'hui que la donne politique avait changé et qu'il n'y avait plus que deux grandes catégories en politique, que lui résumait comme les forces progressistes d'un côté et les populistes de l'autre. Alors ça vaut le coup quand même de s'intéresser un peu à ça parce que c'est fondamental pour l'élection présidentielle qui arrive. Grosso modo, ce que ce monsieur voulait dire, c'était que effectivement, on voit le Parti Socialiste faire attention au triple A à peu près autant, voire plus que Nicolas Sarkozy. On voit avec les tergiversations des Verts actuellement que la seule question qui tienne, c'est ce que nous devons coller au Parti Socialiste ou coller au Parti Socialiste. On se rend compte donc qu'il y a une espèce de politique du centre, c'est l'appellation de Serge Halimi dans l'article du monde diplomatique sur lequel on va s'appuyer pour alimenter ce débat. Et puis, il y a tous les gens qui disent aujourd'hui, bon, c'est un tel bordel, ça suffit maintenant, la dictature des banques, il faut sortir de ça. Alors évidemment, dans le même panier, on va mettre, c'est une horreur, mais c'est comme ça, à l'extrême droite, Marine Le Pen, un peu moins à l'extrême droite, Dupont-Aignan, à l'extrême gauche, soi-disant, parce qu'on aime bien ce terme d'extrême gauche pour qualifier les gens, Mélenchon. Enfin, on fait un espèce de panier, et ce panier, on dit les populistes. Et donc, on est en train effectivement d'assister une espèce de radicalisation.
Il y a plus à gauche que Mélenchon.
Je ne les cite pas, mais ils ont disparu. Le facteur, il a rempli l'erreur. Monsieur Poutou.
Ne tombe pas. Alors, moi je m'insurge.
Eh ben vas-y,
je m'insurge parce que ça n'a pas du tout.
Vas-y.
Ça, c'est en ce moment le bain médiatique à l'heure actuelle où on nous bassine à longueur de journée. Le NPA a disparu. Lutte ouvrière, on n'en parle même pas depuis que Arlette a foutu le camp, etc. Il y a toujours des êtres humains, il y a toujours des gens qui sont dans leurs entreprises, qui luttent, qui font leur truc. Pas que je roule pour ces gens-là, soyons bien clairs. Mais il y a une sorte de messe médiatique où, en ce moment, par exemple, alors, Arrault sur les Verts, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est le vrai bordel,
on va en parler,
c'est n'importe quoi, etc. Comme si les gens devaient se conformer. Il faut absolument que les candidats à la présidentielle, les représentants des partis politiques, soient conformes à une image que l'on projette sur eux. Les gens n'ont pas le droit d'être des êtres humains, d'hésiter, de reculer, de ne pas être d'accord avec
leur
base,
etc. C'est volontaire, on est bien d'accord.
Voilà.
C'est volontaire.
Mais je trouve que là, on tartine et on conforte ce truc manichéen gauche-droite. Alors, quand les gens ne sont pas conformes, on les critique. Mais s'ils sont trop conformes, on dit qu'ils sont pépères et qu'ils ne sortent pas de leur routine, tu vois. Donc, de toute façon, les Français sont râleurs et mécontents quoi qu'il arrive. Et les journaux tartinent, les radios, les télés, tout le monde tartine.
C'est une restriction.
Et surfe sur cette vague-là et ça m'énerve.
Une restriction. En réalité, on dit la même chose. Je suis en train, l'objectif, justement, c'est de bien montrer l'espèce de restriction qu'on est en train de nous imposer dans le droit de penser différemment.
Voilà.
C'est ça le fond du débat. C'est pour ça que je le fais exprès.
C'est le règne de la pensée unique, qu'elle soit de gauche, de droite, droite ou
c'est
du
pour
centre.
Ça que je dis on ne les cite plus, parce que quand je dis ils n'existent plus, ça sous-entend ils n'existent plus médiatiquement, ils n'ont même plus le droit de parler. C'est-à-dire que ces gens seront probablement candidats à la présidentielle sous prétexte que Ruquier a donné la parole à Poutou pour se foutre de sa gueule pendant 30 minutes. Ce sont des gens
pas
qui n'ont
fait, pas tout à
ouais,
fait.
Enfin moi je l'ai vu l'émission, j'ai vraiment
moi
trouvé
aussi,
qu'il se foutait de sa gueule.
Non, il est un petit peu au début, et puis quand il l'a vu si malheureux et si désarmé, ils l'ont plutôt soutenu. Ils ont
ah oui, parce
été...
qu'il faisait pitié.
Mais voilà, quelque part. Mais je l'ai entendu sur Inter ce matin, il se débrouillait très bien. Le
Poutou. Il était sur
mais
Inter
ouais, mais oui, d'accord. Il était à Bordeaux, il se débrouillait très bien. C'est pour ça, on nous fait croire des choses aussi. C'est comme la fuite à Baden-Baden d'Eva Joly, quoi. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi.
Alors justement, le but, on se rend bien compte, c'est d'essayer de réduire le choix politique. Finalement, aujourd'hui, et c'est ce qui va nous arriver jusqu'à la présidentielle, mesdames et messieurs les auditeurs, vous êtes dans l'obligation, sinon vous êtes des horribles populistes, de trouver que finalement le problème n'est plus de savoir si c'est le tout marché ou pas le tout marché. La question c'est, le marché c'est bien, comment on fait pour l'adoucir un petit peu? Parce que c'est ça aujourd'hui le débat. Le débat aujourd'hui c'est, on n'a même plus le droit de dire... Ça suffit les conneries. Ce matin sur BFM Télé, j'ai entendu un économiste et j'ai halluciné qui expliquait. Et là par contre ça m'a fait plaisir. Le type disait voilà, c'est très simple aujourd'hui, on en est au stade suivant. Il disait soit la BCE, la Banque Centrale Européenne, on lui donne les prérogatives de venir au secours des États s'ils sont en faillite. Mmh. Soit il faut commencer à se préoccuper de savoir combien ça va nous coûter de réimprimer les monnaies nationales. Un économiste qui lui-même se payait le luxe de dire finalement peut-être qu'on est déjà trop loin et qu'on va être dans l'obligation de foutre ce système en l'air. Un économiste qui disait ça.
T'as le demi-frère de Sarkozy qui s'exprime, il est banquier à New York, demi-frère.
Oui.
C'est le quatrième là.
Ouais.
Eh bien il disait l'euro on a pour 3 mois là.
Bien sûr, mais il y a des gens qui spéculent sur la sortie de l'euro. Il est attaqué de toutes parts, c'est pas par hasard. Il y a des gens qui veulent foutre l'euro en l'air. Ça, c'est un objectif très très clair. Alors la question, l'opposition à cette pensée unique, aujourd'hui, on dit des populistes. Alors on va faire le tour, nous ici, des populistes pour essayer de comprendre un petit peu soit comment le système médiatique essaye de les enfermer, de les engoncer. On va voir tout, on va commencer
avec les verts,
de les caricaturer et on va essayer de comprendre ce qu'il y a réellement comme option potentielle pour les électeurs que nous sommes. Les verts, commençons par à tout seigneur, tout honneur, tout seigneur de l'actualité. La mère Eva Joly, elle s'est fait carotter là.
Alors, il faut tout savoir. Sais-tu que les Verts sont en ce moment pendus de chez pendus et qu'ils ont carrément mis les sièges de deux régions, je crois, à l'hypothèque. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus un sou.
Ils n'ont pas une thune.
Ils sont pendus, mais archi-pendus, et les banques ne leur prêtent que si cet accord est signé.
Non,
si,
sans déconner.
Si,
c'est une info
que
t'as d'où, ça.
Ah, mais bah, écoute, canard enchaîné d'hier.
Je te laisse le temps de retrouver,
ah,
parce que...
Oui.
Alors, le grand jeu, pendant que tu cherches, là, le grand jeu média actuellement qui consiste à faire passer pour Eva Joly, pour une espèce d'allumée qui serait ingérable, on est obligé de s'arrêter dessus parce que c'est totalement scandaleux. Vas-y, reprends donc l'info que tu donnais, Gilles, s'il te plaît.
Alors, c'est très clair. Les locaux de la Fédération du Nord et du Pas-de-Calais, des Verts, hein, on est toujours... Enfin, les Verts. EELV, hein,
ouais.
Europe Écologie, les Verts. C'est toujours compliqué au niveau de la com. Les locaux donc, de ces deux fédés, Nord et Pas-de-Calais, sont hypothéqués. Les régions ont été priées de contribuer à renflouer le national et le paiement du salaire des employés a été suspendu.
Ah ouais.
À l'obtention d'un prêt de 1,5 million du crédit coopératif, lequel a donné oralement son accord, mais à condition que le plan de remboursement tienne la route. Autrement dit, qu'un accord électoral avec le PS garantisse aux Verts un score honorable.
C'est un truc de
mais voilà,
malade,
mais ça, on ne le dit pas, ou très peu.
Ah ouais,
c'est-à-dire que ce qui peut passer pour... Il y a sûrement un petit peu du côté de Duflot et de tout ça, disons, un souci pour l'avenir et de...
Duflot, c'est une carriériste, elle pense qu'à son parachutage à Paris.
Bah,
elle attend.
Ça, c'est ce que nous disent les
médias.
Non,
moi, c'est ce que je ressens à titre personnel.
Oui, mais c'est ce que nous disent les médias. Mais attention, attention du premier ressenti un peu réac comme ça. Il faut faire gaffe, si tu veux.
Je connais bien, d'abord, je parle comme ça, Gilles, parce que je connais très, très malheureusement, mouvement depuis 25 ans.
Moi, je trouve que cette demoiselle a un discours qui... Cette demoiselle, en fait, qui est une mère de famille, a un discours qui tient la route. Elle n'est pas mauvaise. Je pense qu'elle a été fortement influencée par Daniel Cohn-Bendit, qui leur a dit, mais les Verts, vous êtes gentils, mais soit vous voulez avoir raison tout seul dans votre coin et vous ferez 0,1 ou 1,5% comme avait fait Voynet, soit vous voulez jouer dans la cour des grands, ouais. vous voulez avoir un groupe à l'Assemblée nationale, vous voulez continuer à financer des fédérations.
Oui, parce que
si vous voulez pas crever, en gros, soyez pragmatique. C'est toujours le problème des Verts en Allemagne.
Ce sont aussi un des problèmes de Cohn-Bendit qui défend depuis le départ l'idée que à l'élection présidentielle, les Verts, de toute manière, c'est une élection qui ne leur réussit pas, feront 3 ou 4%. Donc, ils ont intérêt dès le départ à passer un accord avec le Parti socialiste. Je voudrais faire un petit peu d'historique quand même du mouvement des Verts. C'est quoi l'écologie politique? Parce qu'on assiste également actuellement à une espèce, j'ai l'impression que c'est volontaire, de focalisation. Tout est ramené au débat sur le nucléaire. Pendant ce temps-là, on oublie de rappeler aux gens que l'écologie politique, ça n'est pas que le nucléaire. On va revenir là-dessus juste après.
Oui, mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est les médias qui focalisent.
C'est ce que je te dis, c'est fait totalement volontairement et on va comprendre pourquoi. Enfin, on va le faire tout de suite d'ailleurs. Sachez que vous allez avoir très bientôt dans vos boîtes aux lettres et partout sur les marchés une campagne à plusieurs centaines de milliers de tracts que l'UMP est en train de sortir parce que cette focalisation sur le nucléaire, elle va leur permettre de balancer des infos du genre l'accord ELV et le Parti Socialiste, c'est 4000 emplois ou 40000 emplois qui vont sauter.
5000 emplois à la Hague,
c'est votre facture d'électricité plus chère et alors évidemment,
bien sûr, ça
va acter plein fer, donc on a intérêt à focaliser sur le...
J'ai vu la campagne de com, elle a déjà été dévoilée, c'est Hollande a choisi la dette.
Voilà, c'est ça.
Voilà,
donc actuellement, focaliser volontairement sur le nucléaire et réduire les écologistes au nucléaire, c'est extrêmement pratique.
Non, mais c'est justement, alors, eux ne veulent pas se réduire à ça. Et quand on dit, bon, c'est des carriéristes, etc., ils pensent déjà aux législatives. Mais s'ils n'ont pas de majorité, ils ne compteront pas.
Alors
ils
ne pourront absolument pas jouer, quoi. Là, je ne suis pas d'accord.
Attends, laisse-moi terminer un petit peu le développement. Il y a deux solutions. Moi, je suis pour ne pas jouer du tout. Hein, ce jeu-là. Mais à partir du moment où tu joues le jeu politique, politicien classique, tu es obligé de prendre les règles de ce jeu, quelque part.
Bah ouais, c'est mort.
C'est le problème d'Eva Joly, qui, elle, je pense, est assez psychorigide et honnête, et le côté nordiste, protestant, machin, etc. La vérité, c'est la vérité, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on
fait.
On
a reproché la même chose à Jospin.
Absolument. Ouais. Mais Jospin, on ne se rappelle pas, peut-être, mais à l'époque, a créé 2 millions d'emplois. Pendant 2 ans, la Sécu a été excédentaire, il n'y avait plus de trous de la Sécu et il est parti en laissant 200 millions de fonds secrets sur la table, ce que peu de politiques ont fait. Mais ces gens-là ne jouent pas le jeu, ne jouent pas avec les règles réelles de ce petit microcosme et de ce fait se font bananer. Ne peuvent s'en sortir et ne peuvent jouer que ceux qui sont retors, malins, démerdards, etc. Et c'est le choix que les politiques du genre Duflo ont fait. C'est-à-dire, si on veut compter, si on veut jouer, si on veut encore avoir le droit à la parole et ne pas être un groupuscule dans notre coin, eh bien, il faut... faut avoir un groupe à l'Assemblée nationale, faut pouvoir peser, faut avoir tant de circonscriptions, etc.
C'est un débat chez les Verts qui a lieu depuis des
dizaines d'années.
C'est un débat qui a lieu depuis des dizaines d'années. On pourra rappeler toujours pareil pour les auditeurs qui vont se souvenir de cette période. Pour les autres, ce serait intéressant d'avoir l'anecdote qu'à l'époque de Brice Lalonde qui avait été sorti avec son mouvement Génération Écologie, ça a exactement 20 ans. En réalité, le mouvement Génération Écologie avait été fondé face à Antoine Wechter qu'on trouvait également trop rigide. Trop protestant, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. C'est Michel Rocard, sur les fonds secrets du Parti Socialiste, qui a financé le lancement de Brice Lalonde, on l'a appris sur un très bon documentaire de La 3 il y a 2 jours, qui a financé la sortie d'Europe Écologie pour que les idées des écolos soient rattachables d'office au Parti Socialiste. Ouais. Alors il y a un moment où la vraie question qui se pose, c'est l'écologie politique sortie du nucléaire, c'est autre chose. C'est un mode de pensée, c'est un mode de vie, c'est un mode de consommation, c'est un choix de remettre l'homme. Comment, aujourd'hui, le Parti Socialiste, dans la période que nous vivons, peut passer un accord électoral pour les législatives avec le Parti Socialiste, qui sous-entend à dire qu'ils vont fermer leur bouche sur toutes les décisions du PS pour la sauvegarde du triple A, qui vont accepter la même politique. Moi, je me mets à la place d'Eva Joly. Elle s'est fait carotter, Eva Joly. C'est-à-dire que cette femme qui a l'air, a priori, effectivement, intègre. J'entendais hier sur une chaîne d'information également des analystes. Putain, ceux-là, je leur mettrai un coup de fusil, moi. Des analystes, je le dis, des analystes, les mecs, tu sais ce qu'ils disaient? Ils disaient, Eva Joly, quand même, elle est en train de nous annoncer comme programme qu'elle veut un État irréprochable. On fait pas un programme avec ça, les Français s'en foutent.
Bah non,
ils
préfèrent les petites magouilles.
Voilà, ils préfèrent les valises de billets, ils préfèrent
Bien entendu.
Donc, on focalise.
Mais la majorité des Français, si tu discutes au café du commerce avec eux, te disent, mais de toute façon, si on était à leur place, on ferait pareil. Hein. Quand on accusait Chirac de taper dans la caisse et de ce genre de choses, choses, les frais de bouche et tout. La plupart des Français, à l'heure actuelle, aimeraient bien finalement être à la place de tous ces gens-là et de taper dans la caisse et tremper le doigt.
Ouais, ça rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure sur les réactions à la poste.
Absolument,
quoi.
Absolument.
Alors quand on voit la belle affiche, parce que ça c'est un coup marketing extraordinaire, la belle affiche avec Cohn-Bendit, José Bové et Eva Joly, les gens y ont cru, ont donné un certain nombre de voix, on se dit c'est magnifique. Et aujourd'hui, on va découvrir avec effroi, 2 ans ou 3 ans après, que ce coup marketing n'était que du marketing. Comment voulez-vous que quelqu'un comme José Bové, ou même quelqu'un comme Eva Joly, se retrouve aujourd'hui à dire « Ok, on accepte complètement les idées du Parti Socialiste alors qu'on les imagine plus proches des idées de Mélenchon. »
On avale les couleuvres, ce qu'avait fait Dominique Voynet à l'époque.
Et Cohn-Bendit, il a sa part de responsabilité parce que ça fait des années qu'il essaye de tirer les verres vers une association.
Ce sont des pragmatiques. Pourquoi ? Alors pourquoi ces gens-là sont devenus très pragmatiques ? Parce qu'ils se sont fait plus ou moins, ils sont députés européens, ils se sont fait élire, ils mangent dans les restos, ils prennent l'avion comme moi je pète et ils sont plus sur la même planète que nous. Ils sont plus sur la même planète
Ils bouffent trop au resto, tu veux dire.
Et voilà, ils n'ont plus de problème de fin de mois. Hein. Le 15 du mois, ils ne sont pas dans le rouge, c'est très clair. Et ça y est, ils ont fait carrière, quoi, quelque part. Et donc, ils savent très bien que s'ils veulent peser, faire passer quand même quelques idées, parce qu'il y a des choses positives là-dedans. Heureusement que certains sont là, à l'Europe, pour aller faire passer des trucs, lutter contre les OGM et des choses comme ça. Mais pour faire passer ça, il faut jouer le jeu, il faut se comprendre. Il faut se faire bouffer le crâne par le système. Il n'y a pas d'autre solution,
apparemment. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu n'es pas d'accord avec ça, tu es donc forcément forcément du côté des populistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui veulent, par exemple, aujourd'hui mettre Sarkozy dehors, ils n'ont plus qu'un choix, c'est d'aller voter François Hollande qui va faire à peu de choses près, la même politique.
À peu de choses près, mais avec quelques petites nuances. Il y a des gens, moi j'ai entendu ça au niveau local par exemple. Si c'est François Hollande, eh bien notre sénateur maire Alain Fauconnier sera bien placé et on sauvera notre hôpital. Tu vois le truc.
Voilà. Ouais, c'est du niveau.
C'est ce qui se dit. Si tu veux, ça sera plus facile de sauver l'hôpital de Sainte-Afrique si c'est Hollande que si c'est Sarkozy. Et les exemples sont multiples à ce niveau-là. Et à mon avis, ils se trompent parce que parfois on s'entend mieux avec l'opposition qu'avec les gens.
Ça a été le cas sur Sainte-Afrique.
Avec des gens qui ont exactement les mêmes idées. Parfois, on est étonné de certaines réactions de gens qui sont soi-disant dans le même camp que vous.
Alors, Serge Halimi, dont j'en parlais tout à l'heure dans Le Monde Diplomatique, a un très joli titre pour ça. Il appelle ça la République du Centre, lui. C'est-à-dire que maintenant, il considère, et je ne suis pas loin de partager son avis, que au-delà de la méthode, évidemment, parce qu'on connaît bien la méthode Sarkozy et il y a beaucoup de gens à qui elle déplaît, mais au-delà de la méthode, finalement, les politiques seraient à peu près toutes les mêmes. Donc, cette espèce d'agglomération, de conglomérat de gauche, de centre-gauche, on va dire, et puis de centre-droit, quelque part, c'est ce qu'il appelle, lui, la République du Centre. Et finalement, alors il explique, Halimi, il dit, le capitalisme évidemment connaît sa crise la plus sérieuse depuis les années 30, il dit les principaux partis de gauche semblent complètement muets, embarrassés, au mieux ils promettent de ravauder le système, plus souvent ils cherchent à prouver leur sens des responsabilités en recommandant eux aussi une purge libérale. Combien de temps ce jeu politique verrouillé peut-il durer alors qu'enflent les colères sociales ? Ça c'est une question extrêmement intéressante. Alors c'est très intéressant parce qu'il dit un des meilleurs procureurs de l'impasse de la social-démocratie, parce que c'est ça dont il s'agit, c'est le porte-parole du Parti Socialiste, qui s'appelle Benoît Hamon, qui dit « Hamon, au sein de l'Union Européenne, le Parti Socialiste Européen, donc le PSE, est historiquement associé par le compromis qui le lie à la démocratie chrétienne, à la stratégie de libéralisation du marché intérieur et à ses conséquences sur les droits sociaux et les services publics. Ce sont des gouvernements socialistes qui ont négocié les plans d'austérité voulus par l'Union Européenne et le Fonds Monétaire International. En Espagne, au Portugal et en Grèce, bien sûr, la contestation des plans d'austérité prend pour cible le FMI à la Commission européenne, mais les gouvernements socialistes nationaux, une partie de la gauche européenne, ne contestent plus qu'il faille, à l'instar de la droite européenne, sacrifier l'État-providence pour rétablir l'équilibre budgétaire et flatter les marchés. Nous avons été, en plusieurs lieux du globe, un obstacle à la marche du progrès. Je ne m'y résigne pas. » C'est Benoît Hamon, le porte-parole de qu'est-ce qu'il fout encore au Parti Socialiste, parce qu'il n'a pas fini de se résigner avec ce qui va se préparer pour l'élection.
Alors justement, tu disais qu'on allait faire le tour des populismes. L'autre populisme qui est cité en permanence, c'est Mélenchon, Méluche, qui a un peu vampirisé le PC, il faut quand même le dire, puisqu'il est arrivé sans faire partie du parti, à se faire...
Joli coup politique, ceci.
Très joli coup politique. C'est quelqu'un qui parle très bien. Moi, il a un discours avec lequel je suis relativement d'accord. Mais Qu'est-ce qu'un mec comme ça il a dit qu'il ne bosserait pas avec le PS parce qu'il les connaît trop et surtout pas avec Hollande. Donc, c'est quelqu'un qui se contentera de prêcher dans son coin et de ne pas jouer et de ne pas influencer. Et ça, c'est aussi grave. J'aime bien le discours, mais si jamais... Ça a été le problème du petit facteur, hein, je suis désolé. Besancenot avait un discours extraordinaire avec lequel, vraiment, je signais pratiquement tout. Mais ces gens-là ne mettent pas les mains dans le cambouis, parce que mettre les mains dans le cambouis, c'est faire des compromis, c'est avaler des couleuvres, c'est aller jouer dans la cour des grands. On est un vieux pays, on est un vieux continent, et il y a tous les invendus. C'est une épicerie, un pays. Tu reprends un commerce, eh bien, tu te tapes le nucléaire en cours, qui va coûter le double. Tu te prends en cours les contrats d'assaut, ce genre de choses. Tu ne peux pas, du jour au lendemain, même, je suis pour sortir du nucléaire, il n'y a pas de souci, mais c'est une utopie complètement dingue de penser que demain on éteint un bouton et on sort du nucléaire. C'est complètement stupide
bien
de
sûr,
penser ça.
Bien sûr.
Voilà. Parce que justement, il y a les arriérés, il y a tout ça. Donc, moi, je ne trouve pas que Mélenchon soit populiste. Il est un petit peu. Comment dire, il a le sang chaud, quoi. C'est un pied noir, hein. C'est un gars qui a il a de la gueule, quoi. Hein.
C'est un bon orateur en plus. Mais hein.
C'est un bon orateur. Ouais. C'est un des meilleurs orateurs à l'heure actuelle. Sauf que si demain un mec comme Mélenchon arrivait au pouvoir, qu'est-ce que ça donne d'après toi? Quelqu'un qui prend son modèle, c'est Hugo Chavez, c'est les révolutions d'Amérique latine, c'est inapplicable en France.
Alors inapplicable, ça veut dire qu'on cède à la politique du marché.
Ben je pense, peut-être je dis pas que j'ai la vérité, peut-être je me plante, mais à mon avis c'est inapplicable en France.
Alors moi je j'adhère pas du tout, Gilles. Je suis absolument pas d'accord.
Bien.
Je suis absolument pas d'accord. Il y a un moment, si le discours. Parce que c'est facile, populisme. Ça veut dire quoi, populiste? Ça veut dire quelqu'un qui va adapter son discours pour flatter le peuple.
Voilà,
Non, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils font tous? Tu crois que Sarkozy fait pas du populisme
Tous, mais bien entendu,
Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter, populiste. Si un mec... Moi, je veux dire, on dit d'un côté, on dit souvent, il s'adresse aux ouvriers. Déjà, ça a l'air sale de s'adresser aux ouvriers. Mais faut arrêter d'ailleurs, parce qu'avec la baisse de l'industrie des ouvriers, il y en a de moins en moins, hein, si on regarde bien les choses.
Il n'y a pas que des ouvriers dans l'industrie. À Roquefort, il y a plein d'ouvriers.
Comme s'il n'y avait que des ouvriers pour rappeler à la remise en place de l'humain au cœur du système. Le discours n'est pas de dire il faut abattre le méchant capital et les grands patrons, parce que l'amalgame qui est fait aujourd'hui, c'est d'essayer de mélanger un petit peu la lutte des classes de 1936 avec la situation actuelle. Il y a des points communs, mais ce n'est pas suffisant. La vraie question aujourd'hui, c'est que le système libéral est en train, semblerait-il, de tout foutre en l'air, de tout raser, sans la moindre prise en compte de l'être humain. Et aujourd'hui, mettre en place l'homme au cœur du système, c'est pas dire, moi je veux foutre en l'air les grands patrons et je veux revenir à la lutte des classes de 1936. Donc cet amalgame, déjà...
C'est le truc
stop.
De Mélenchon, le titre de son livre, qui s'en aille tous, c'est pas rien.
Mais le discours de Mélenchon ne s'adresse pas qu'aux ouvriers. Il y a toute une partie. Où vont aller tous les intellectuels, entre guillemets, hein, je parle pas de Bernard-Henri Lévy, je parle des intellectuels. Bon, où vont aller tous les intellectuels qui aujourd'hui disent stop, le système actuel est en train de tout foutre en l'air, nous voulons autre chose. Où est-ce qu'ils vont aller? La partie des Verts qui vont être dégoûtés, toute la partie des Verts qui va être dégoûtée par la magouille actuellement, ils vont aller où, à ton avis? Moi, je veux dire, Mélenchon, à mon avis, il ne va pas se contenter de rester simplement à faire ses 3 ou 4% de voix aux élections. Je pense qu'il va focaliser une grosse partie des gens qui ne peuvent pas se résoudre au Parti Socialiste à voter François Hollande. Je pense qu'il va récupérer une bonne partie des Verts qui ne peuvent pas se résoudre à l'accord qui vient d'être passé avec le Parti Socialiste. Et on ne serait pas surpris de voir Mélenchon à 10-12%. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
Et alors,
c'est la constitution d'une opposition claire et nette au système. T'es pas d'accord?
Non,
je
suis pas
d'accord.
Je suis pas d'accord parce que ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Si tu vas pas mettre la main dans le cambouis, ça marche pas. Et tu seras effectivement comme l'a été Besancenot, quelqu'un qui passe sur les plateaux de télé, qui donne raison à certaines choses, qui plaît effectivement aux intellectuels de gauche, etc.
Non, justement, il y a pas les intellectuels chez Besancenot. Je suis pas d'accord.
Ton analyse, à mon avis. bon, c'est, elle t'appartient, hein, c'est, tu as complètement le droit. Je partage en plus pas mal de choses, je suis un peu l'avocat du diable, mais je, malheureusement, je pense que tous les déçus, tous les gens qui ne savent pas, eh bien, ne vont pas aller voter. Il y aura une abstention record où certains, bêtement, vont aller voter Marine Le Pen, quoi.
Je ferai une petite conclusion très rapide, puisque Philippe me fait signe et grand signe pour me dire c'est fini. Semblable à une étoile morte, la République du Centre jette ses derniers feux. Alors, audace ou enlisement, les risques de l'audace, isolement, inflation, dégradation, nous sont serinés de l'aubre au crépuscule. Oui, mais ceux de l'enlisement. Analysant la situation de l'Europe et des années 30, l'historien Karl Polanyi rappelle que l'impasse où s'était mis le capitalisme libéral avait alors débouché dans plusieurs pays sur une réforme de l'économie de marché, réalisée au prix de l'extirpation de toutes les institutions démocratiques. Le vrai risque, effectivement, il est là. Maintenant, bien que soutenu par toute une quincaillerie institutionnelle et médiatique, la République du Centre chancelle. Une course de vitesse est engagée entre le durcissement de l'autoritarisme libéral et l'enclenchement d'une rupture avec le capitalisme. Celle-ci paraît encore lointaine. Mais quand les peuples ne croient plus à un jeu politique dont les dés sont pipés, quand ils observent que les gouvernements se sont dépouillés de leur souveraineté, quand ils s'obstinent à réclamer la mise au pas des banques, quand ils se mobilisent sans savoir où les conduire à leur colère, cela signifie malgré tout que la gauche est encore vivante.
Oh, ben on voilà une bonne nouvelle. On va rester là-dessus. Hein,
bisous à tous. C'est à la lutte semaine finale. Prochaine. C'est pas ça que ça voulait dire. Gros bisous et plus. Ciao.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on vient à vous.
J'avais oublié. Il y a 10% d'amende. Pour la retard.
Il a osé me frapper. Il se rend pas compte.